veut, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, qui pèque, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est
la cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République parce qu'on sait jamais. Hein.
Ça va tout changer parce qu'en plus j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement et est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit. Où,
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes le dimanche 2 janvier, il est 18h, bienvenue dans Cours d'honneur. Bienvenue dans le magazine culturel de la Sorbonne. Une fois par mois, les étudiants de la plus vieille fac de France prennent place dans le studio de Radio Campus Paris pour vous raconter les meilleures histoires qui parcourent les couloirs de Sorbonne Université. On est dimanche soir, c'est le deuxième jour de l'année 2022. Tu commences à te remettre du nouvel an, mais il fait froid et tu n'as pas envie de reprendre le chemin de la fac, du taf, du métro ou du RER. Alors viens combattre cette morosité avec nous. Commencer l'année avec nous, c'est sans doute la meilleure résolution que tu puisses prendre de ta vie. Alors, du fond de l'amphi jusqu'au sommet des chambres de Bonne, soyez les bienvenus dans Cours d'honneur. Je m'appelle Blanche, aujourd'hui Thomas, notre taulier, a eu l'audace de me confier les rênes de la première émission de l'année. Et cette semaine avec nous, nous avons les piliers de conductoire, Noa.
Salut Blanche, aujourd'hui je te parle de Thomas Sankara.
Zeyneb.
Coucou Blanche, on va parler expo photo.
Yanis.
Salut Blanche, j'interview la cofondatrice de Youdeo.
Julie.
Oui, du coup je vais vous raconter une petite anecdote sur Rabelais.
Esaïe.
Salut, je vais vous parler du rap français sur les plateformes streaming.
Agathe.
Salut, moi j'ai passé une interview avec le directeur général d'une asso caritative.
Pierre.
Bonjour Blanche, alors moi je vais vous parler de disco, de politique et de danse.
Adélie.
Salut Blanche, et ce soir je te parle de mon roman préféré.
Elisa.
Salut, je vais te présenter mon projet 360 Bélec.
Et puis bien sûr, on terminera cette émission en nous faisant voyager avec notre création originale signée Nathan. Mais tout de suite, le débat.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Le 15 octobre 1787, Thomas Sankara tombait sous les balles d'un commando. 34 ans après les faits, c'est à Ouagadougou que sont jugés les 14 accusés. Le procès de l'assassinat de l'ancien président du Burkina Faso, ouvert le lundi 11 octobre, a été reporté deux semaines. Les prises de position du célèbre révolutionnaire burkinabé lui ont donné le surnom de Che Guevara africain, Noa Bentasoui.
Rebaptiser un pays, peut-être pas une mince affaire. Et pourtant, c'est l'un des changements que l'ancien président Thomas Sankara opéra un an après son arrivée à l'État. À la tête de l'État. La Haute-Volta fut renommée Burkina Faso en 1984, terme que l'on peut traduire en français par « pays des hommes intègres ». En effet, c'est donc intègre et digne que le jeune président de 34 ans veut voir son peuple devenir. Et pour ce faire, il multiplie les initiatives en faveur de l'émancipation de la population. Thomas Sankara n'hésite pas à voir loin, et les ambitions qu'il nourrit pour son pays ne sont pas minces. En faisant de la lutte contre la corruption, le cœur de son programme présidentiel, il permet de mieux rétablir les richesses du Burkina Faso. Les classes aisées ne le sont plus aux dépens des autres. Thomas Sankara croit en l'importance d'une démocratie directe et instaure la souveraineté du peuple, un peuple dont il se veut le défenseur et l'avocat face aux puissances étrangères et coloniales. Car selon lui, l'émancipation du pays ne peut se faire qu'à l'abri de l'influence et de la mainmise occidentale. Lors de ses discours à l'ONU, il n'hésite pas à faire entendre ses revendications. On se souvient par exemple de celui du 4 octobre 1984. Il y parle sans réserve du désir de révolution du Burkina Faso, ou de ce qu'il appelle plus clairement la lutte éternelle contre toute domination. Thomas Sankara s'oppose à l'impérialisme occidental. Il refuse l'aliénation intellectuelle, culturelle, économique et politique qui a trop longtemps été imposée à son pays. Mais il se veut également défenseur de valeurs universelles. Il tente de porter la voix de tous les opprimés, les femmes, les enfants mal soignés, les hommes de couleur du monde entier. Aujourd'hui, de Thomas Sankara, on ne retient ni les excès de son gouvernement, ni les erreurs qu'il a pu commettre, mais simplement ses prises de position marquées et ses idées de révolte émancipatrice.
Merci beaucoup, Noa. Maintenant, chronique historique, nous sommes avec Julie. Nous sommes à la Renaissance, Rabelais, grand humaniste et scientifique français, après un séjour en Italie, s'arrête dans une auberge lyonnaise pour savourer un délicieux repas, et tout ça sans argent. Objectif, s'échapper avant l'addition. Pendant cette halte, l'homme de lettres va tout tenter pour se faire arrêter et ainsi fuir la situation. C'est cette anecdote méconnue de la vie de Rabelais que nous raconte aujourd'hui Julie Biétry.
Oui, Rose. D'ailleurs, connaissez-vous l'expression « le quart d'heure de Rabelais »
Cette expression évoque le redoutable moment de payer quand on n'a pas d'argent et par extension, toute situation désagréable dont il faut trouver le moyen de se sortir. Mais l'origine de cette expression est bien plus croustillante. L'anecdote est savoureuse. Nous sommes en 1536. François Rabelais est alors le médecin et le secrétaire du cardinal Jean du Bellay en poste à Rome. Revenant de la capitale italienne et passant par Lyon, où il publiait ses livres, il fit halte dans une auberge. Après un savoureux repas, il fut confronté à un léger problème, il n'avait pas le moindre sou pour payer son dû. Et rien de mieux que la ruse pour tenter de braver les contraintes. Pour éviter le quart d'heure de Rabelais, l'humaniste eut un trait de génie. Le voici donc pris à imiter un médecin fou, menaçant, rêvant de tuer le roi, et c'est en mettant en évidence deux flacons de poudre blanche sur lesquels il écrit « Poison pour le roi et poison pour la reine » qu'il fit croire à tout le monde qu'il avait de mauvaises intentions. Méthode particulièrement efficace pour faire parler de soi. Évidemment, l'aubergiste apeuré à l'idée de loger un conspirateur et d'être associé à son entreprise malhonnête ne mit pas longtemps pour dénoncer Rabelais. La maréchaussée, équivalente à la gendarmerie actuelle, l'embarque et bingo. En cas de crime de lèse-majesté, ce dernier est pris en charge avant même que ne soit venu le moment pour lui de régler l'addition. Le rusé peut voyager tout frais payé, de Lyon jusqu'à la capitale, logé, nourri, blanchi, direction la prison. Heureusement pour lui, le roi François Ier se trouvait sur sa route et le reconnut directement. Rabelais lui expliqua sa ruse, prouvant son honnêteté par l'ingestion du prétendu poison. Cette affaire se termina dans des éclats de rire, tissant des liens de complicité entre le roi et l'écrivain, et laissant derrière elle une petite anecdote à raconter. Depuis, l'expression est restée, elle est même inscrite dans le dictionnaire.
Merci beaucoup Julie, je m'y serais pas attendue venant de Rabelais.
Tout le monde ne peut pas devenir un grand artiste, mais un grand artiste peut surgir n'importe où.
Il n'y a aucune raison logique pour qu'il y ait moins de talents créateurs au XXe siècle qu'au XVIIe.
On accueille maintenant sur le plateau de la Cour d'honneur Laetitia Chatillon, cofondatrice de Yudeo. Bonjour Laetitia.
Bonjour.
Laetitia, tu es une ancienne de la Sorbonne. Tu as étudié en LMA avant de partir au CELSA. Puis il y a 10 ans, tu as fondé Yudeo, une agence spécialisée dans l'accompagnement de créateurs de contenu. Alors créateurs de contenu, c'est le nom le plus politiquement correct des influenceurs ?
Aujourd'hui, en effet, créateurs de contenu, talents, sont plus appréciés que influenceurs.
On a tous vu la séquence avec Marlène Schiappa, la ministre déléguée en charge de la citoyenneté. C'est filmé avec des influenceuses dans une réunion sur les violences sexistes, en train de rire, de chanter, de danser et d'éclater de rire. Est-ce que c'est risqué aujourd'hui de faire appel aux influenceurs ?
Risqué, oui. En fait, il suffit de savoir dans quel domaine. Il y a eu récemment aussi le président de la République qui a convié McFly et Carlito pour faire une vidéo sur les gestes barrières. On voit que la politique s'intéresse énormément à ces influenceurs. Pourquoi ? Parce qu'ils sont avant tout leaders d'opinion. Ils s'adressent à une cible de moins de 25 ans. C'est ce que la politique, en fait, cherche à, les politiciens cherchent en fait à toucher, notamment en période d'élection. Est-ce que c'est dangereux de faire appel à ces influenceurs sur ces questions-là ? Disons que ça dépend le parti qu'on prend. Est-ce que en fait un leader d'opinion doit porter le message d'un politique ? Je me permettrai de reprendre l'exemple de Mélenchon qui en 2017 était très présent sur YouTube pour porter sa candidature. Et là en fait en 2021 on assiste à les politiciens qui eux-mêmes font appel à des influenceurs pour faire porter un message. Moi, de mon point de vue, ce que je vois, c'est faire porter un message généralement sur les réseaux des influenceurs. Et ça, c'est un message finalement que la communauté n'a pas forcément choisi à entendre. C'est un débat, on pourra en discuter longuement.
Nous avons constaté aujourd'hui l'émergence de nombreuses plateformes de communication, de réseaux sociaux. Est-ce que... avec par exemple TikTok qui a eu plus de 65 millions de téléchargements en mars 2020. Est-ce que d'après vous Facebook c'est fini ?
Alors moi je suis convaincue que Facebook n'est pas fini. Aujourd'hui Facebook c'est plus consacré pour des plus de 35 ans. mais beaucoup d'influence se fait, ou même d'opérations d'influence marketing, se font sur Facebook et LinkedIn, ce qu'on pourrait croire. En effet, TikTok est la première application téléchargée monde en 2021. Alors c'est vrai qu'on peut constater que c'est plus adressé à ce qu'on appelle la génération Z, c'est-à-dire au moins de 18 ans, moins de 20 ans. Mais je pense que chaque génération a ses réseaux sociaux.
Alors qu'il s'agisse de food, de mode ou de voyage, les influenceurs sont devenus de véritables prescripteurs de tendances. Alors j'ai envie de te demander, alors quel est le pouvoir économique et politique des influenceurs, selon toi ?
Eh bien, en effet, quand un influenceur promet, met en avant tel produit, par exemple de telle marque de maquillage, etc., il va plus ou moins influencer sa communauté à mettre en avant les bienfaits de tel produit, etc., ce qui va finalement... provoquer de l'achat auprès de la marque. Donc il y a tout un c'est lié au fait à un pouvoir économique par rapport à ceci. Politique, tout est la question, si je comprends bien votre question, de à quel moment l'influenceur accepte d'accepter de faire la promotion de tel ou tel produit ou de telle ou telle cause, vu que généralement ces partenariats sont avant tout financiers, ces collaborations sont financières, et là c'est une question d'éthique à avoir entre le créateur, souhaite-t-il porter tel message, a-t-il vraiment essayé ces produits avant de les mettre sur les réseaux sociaux. Il y a en effet un enjeu politique et économique dans l'influence marketing aujourd'hui.
Et est-ce que vous situeriez une frontière, et si oui, où, entre l'influence et la publicité, justement ?
Grande question, toujours la même. On pourrait toujours comparer un influenceur à l'instar d'un homme sandwich ou d'une femme sandwich sur le fait qu'elle promeut tel ou tel produit, cause ou autre. Néanmoins, un influenceur aujourd'hui, pour moi, est un média à part entière. C'est-à-dire qu'il y a sa personnalité, mais il y a aussi la communauté qui l'anime. Et à partir de là, un média n'est pas forcément une publicité.
D'accord. Alors, tu as cofondé Udeo avec Paul en 2015. Vous avez décidé de vous lancer dans cette aventure à deux. Alors, bien que vous aviez déjà chacun plein d'idées. Alors, vous avez un peu pris de temps à trouver la bonne structure. Mais au final, ça a bien fonctionné. Alors, j'ai envie de te demander quels sont les inconvénients et les avantages de monter un projet à deux. Et qu'aurais-tu fait toute seule ?
Alors, si j'avais monté ce projet-là, Udeo, toute seule, je me serais prise un mur, ça c'est certain. Après, je pense que tout dépend de la personnalité de tout à chacun. J'ai en effet rencontré mon associé totalement par hasard en 2015, bien que nous étions tous les deux créateurs de contenu depuis 2010 sur Internet et qu'on avait l'occasion de se croiser, mais sans jamais se parler. Donc j'ai eu beaucoup de chance en fait, et très rapidement, et je sais qu'aujourd'hui un entrepreneuriat c'est quelque chose de très difficile, et c'est une grande question de comment se lancer dans l'aventure, et c'est oui avec qui, et trouver son associé est une difficulté, de trouver quelqu'un avec qui vous allez passer la majeure partie de votre vie. Moi je pense qu'avec Paul j'ai passé plus de temps avec lui qu'avec ma famille, qu'avec mes amis aussi. Et trouver la bonne personne n'est pas facile. Moi, j'ai eu cette chance, et je le redis encore aujourd'hui, de trouver quelqu'un où on a deux personnalités très complémentaires. Paul est quelqu'un de très créatif. Aujourd'hui, c'est celui qui s'occupe de tout le pôle influenceur, des relations sociales, de toute la partie créative, de l'accompagnement des créateurs qu'on a vraiment à cœur chez Udeo. Moi, je suis plus sur la partie économique où j'érige la partie commerciale de l'entreprise. Et en fait, on a deux personnalités très différentes. Moi qui peut-être concrétise les idées, lui qui me rattrape et qui me remet les pieds sur terre et me dit on y va doucement aussi et en gardant nos valeurs telles qu'elles sont.
Pour terminer, Yanis l'a rappelé au début de l'interview, tu as étudié à la Sorbonne et on se pose la question, mais la Sorbonne a-t-elle joué un rôle déterminant dans ton parcours ?
La Sorbonne a forcément joué un rôle déterminant dans mon parcours. La Sorbonne, c'est peut-être les plus belles années de ma vie. L'année où on arrive tout feu, tout flamme. J'avais 17 ans, j'avais plein de rêves, plein d'envies, surtout de vivre entre les études, la stimulation intellectuelle, mais aussi ce que la faculté permet de faire des choses à côté. Donc moi, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé, que ce soit en emploi étudiant, dans la vie associative. D'ailleurs, un bonjour à Télé Sorbonne, qui sont pas loin. Et forcément, en fait, par la Sorbonne m'a aussi donné confiance en moi en tant qu'étudiante, m'a fait rencontrer des gens... des amis aussi aujourd'hui avec qui je partageais cette ouverture vers le monde etc. Et ça m'a... J'étais très contente de mes études de littérature et souvent on pose la question de vous n'êtes pas sortie d'école de commerce pour monter votre entreprise. Et c'est là que j'ai envie de dire à tous ceux qui ont envie et qui sont passionnés par un domaine d'y aller.
Bah, génial, merci beaucoup Laetitia d'avoir répondu à toutes nos questions et j'espère que pour nous tous, nos années à la Sorbonne seront aussi enrichissantes que les tiennes.
Merci beaucoup.
Hey, this is not a test. This is rock and roll.
Aujourd'hui, pour nous mettre de bonne humeur dans cette saison froide et déprimante, Pierre va nous parler de disco, de politique et de danse.
Le 12 juillet 1979, une date qui n'évoque peut-être rien pour vous, mais qui est pourtant l'ancrage temporel d'un événement majeur dans l'histoire des musiques populaires américaines, la Disco Demolition Night. Recontextualisons. En 79, le disco est à son apogée. Le film Saturday Night Fever, sorti en 77, a consacré le style. Entendez, rendu acceptable pour un public blanc, nous sommes aux États-Unis. Et surtout, lui a donné une bande sonore inoubliable. Les producteurs investissent en masse dans ce style qu'on retrouve dans toutes les pubs à la télé, à la radio, dans les films. Le disco est partout. Du haut des classements des meilleures ventes de disques jusque dans la standardisation des guides de danse de salon pour foyers américains sur moquettes insipides. Le rock, depuis les années 60, est le style de l'américain blanc moyen. Avec le disco, cette musique aux rythmes et mélodies simples et aux arrangements si sophistiqués, les meilleures ventes vont être le résultat d'artistes noirs, latinos, féminines. Et on devine déjà le problème pour les amateurs conservateurs de rock, qui voient la popularité de leur style décroître au fur et à mesure du succès d'un style considéré comme superficiel. Comble de la trahison, les artistes de rock classique vont sortir des tubes aux sonorités disco, comme les Rolling Stones, Kiss, Blondie, Queen et même Pink Floyd. Mais sur ces arrangements de cordes sirupeux, ces patterns de batterie répétitifs et ces lignes de basse ronflantes, se produit une réalité extra-musicale. D'une part, on a un style émancipateur pour des communautés marginalisées. Le disco a été une musique de libération, subversive, une contre-culture comme le jazz et le rock l'étaient. Par la danse, les corps se libèrent. Ils existent, sentent et ressentent, s'expriment. Et si on y arrive, sans entrave. D'autre part, la montée d'un sentiment nationaliste blanc, en parallèle de la constitution du mythe néolibéral, vont faire le terreau de Reagan. Les jeunes hommes blancs américains se sentent investis du devoir de défendre leur patrie et leur liberté. Voir leur musique préférée baisser dans les ventes au profit de musiciens noirs, latinos, et pour que des femmes et des gays dansent dessus ivres ou drogués est un affront. C'est d'ailleurs assez original que pour une fois, ce n'est pas la génération précédente, celle des parents, qui lutte contre la décadence de la musique de leurs enfants. Non, ici, ce sont bien des jeunes rockers réactionnaires qui tirent la gueule. Et nous revenons à Chicago, en cette merveilleuse soirée du 12 juillet 1979, où tout converge. Le principe est simple. Orchestré par Steve Dale, un DJ de radio anti-disco. Tout spectateur du match de baseball qui ramenait un disque de disco pour le détruire avait le droit à une réduction pour l'entrée. Et à votre avis, que se passe-t-il quand on rassemble des milliers d'hommes blancs américains fans de rock et de sport dans un stade avec bière à volonté et cannabis dans cette merveilleuse période pré-Reagan ? Gagné, un auto-da-fé.
la destruction d'un objet culturel par le feu. Comme c'est original, personne n'y avait pensé, même pas sous le Troisième Reich. Bon, j'ai atteint le point Godwin, mais vous voyez de quoi il est question. L'événement tourne en émeute, et des centaines de disques sont brûlés sur le terrain qui devient inutilisable. Des milliers de fans déferlent dans le stade, bière à la main, en hurlant « Disco sucks ». Et là, on y est. La convergence de préoccupations économiques et culturelles cristallisées dans un événement. Je vous l'ai dit la dernière fois, la musique est politique. Et le programme ce soir-là, c'était de brûler cette culture sale, cette culture noire, LGBT, latino, féminine, cette culture qui était une insulte à leurs valeurs de liberté. La vérité quand on est raciste, sexiste ou homophobe, c'est que très naïvement, on imagine que notre culture est la seule à exister. La seule légitime. On voit notre petit nombril sans penser à ce qui existe autour. Et le moment où surgissent les différences, on prend peur. On crie au grand remplacement. Alors, au nom de la liberté, enfin de la sienne, on brûle la culture des autres, on l'annule. Elle est dans quel camp, la cancel culture ? Après ça, oui, le disco a décliné. Mais pas seulement par la bêtise violente de cette nuit-là. Comme beaucoup de styles populaires, il était arrivé au bout d'un cycle et devait se renouveler ou mourir. Dans les années 80, le disco a commencé à être décortiqué par des artistes noirs à Chicago, la ville de la Disco Demolition Night, et a donné la house, puis la techno. Les vieux disques qui traînaient dans les maisons bourgeoises françaises et l'implantation du style en France avec Céron ou Giorgio Moroder ont permis l'éclosion de la French Touch à la fin des années 90. Le disco n'est pas mort le 12 juillet 1979, il est redevenu contre-culture. Il est retourné dans les salles obscures, dans les caves, il s'est hybridé, métissé, il est retourné au sol dégueulasse des discothèques où dansent des milliers de personnes en état second. Et dans la techno moderne, on retrouve la base qui en fait le succès. Le kick, la pulsation. À 120 BPM à peu près, comme le rythme cardiaque. On est soulevé par cette trace primitive de ce qui fait bouger tout notre corps, et on danse. Ce que nous dit cet événement est important. Il nous dit que la musique est politique et que nos goûts musicaux ne sont pas anodins. Ils peuvent être dominants, ils peuvent être dominés, mais ils peuvent aussi être militants. Aujourd'hui, on y est encore. Certains et certaines ont découvert que d'autres nombrils existaient autour du leur et ont décidé que non, jamais ce ne sera accepté, que les autres seraient interdits d'être autres. Un programme politique qui légitime les autodafés, qui veut imposer des prénoms, des vêtements, des façons d'être, la règle du plus fort, du dominant, que sa force légitime. Que répondre à cela ? On vote, on manifeste, on pense, on écrit, on va en ZAD, on se parle, on va en action, on gueule, on fait des podcasts, on en gueule, on fait de la musique, on se rassemble, on lutte, on écrit des poèmes, on tweet, on cache les livres de Zemmour dans les magasins, on affiche ses différences face à la haine normative, et surtout, surtout, on leur répond comme Deleuze, que la majorité c'est personne et que la minorité c'est tout le monde. Et après ça, on retourne sur le dance floor, parce que plus que jamais la danse est politique, et par nos corps libérés nous faisons affront, et nous faisons front.
Waouh, merci Pierre. Effectivement, en termes de lutte contre la morosité, on est bien dans le thème. Entre-temps, Anissa nous a rejoint. Bonjour Anissa.
Bonjour.
La saison 3 de Sex Education fait un carton sur Netflix, une série qui met en scène des adolescents en proie à leurs désirs et leurs sentiments, mais surtout un genre très codifié et de plus en plus exploité. Le teen movie et le teen drama, un genre souvent décrié par la critique. Anissa Silla.
C'est à cause de son réalisme, son contenu graphique, exagéré, ou l'âge de ses acteurs. Développé dans les années 80 puis popularisé dans les années 90, l'adolescence est présentée comme période cruciale de l'existence, celle où les choix pris vont guider le personnage pour toute sa vie. Chaque décennie ont connu leur série et leur film emblématique. Les années 90 ont eu Glee et Beverly Hills 90-210, quand les années 2000 avaient les séries Gossip Girl, Skins, puis Pretty Little Liars dans les années 2010. Des films comme Lolita malgré moi avec Lindsay Lohan, la série de films American Pie, commencée en 1999, ou Clueless, film sorti au début des années 2000. Leurs thématiques et idéologies sont toutes plus ou moins similaires. Nous retrouvons comme ingrédients récurrents ces personnages stéréotypés, comme le sportif quarterback de l'équipe de foot à l'ego surdimensionné, entouré de ses cheerleaders, ses élèves populaires et pimbèches adeptes de la frime, et qui bien sûr ne ratent pas une occasion de manifester leur dédain légendaire. L'intello ou le geek, moqué et malmené depuis son plus jeune âge, dans les cours d'école de par ses capacités, au fond peut-être secrètement jalousé de par l'avenir radieux étant à sa portée. Ces lieux emblématiques, les établissements scolaires avec les couloirs en guise de zone de règlement de compte, la maison familiale située dans un quartier résidentiel de banlieue, repère de la chambre d'ado répondant aux nombreuses caractéristiques présentes dans l'imaginaire collectif. De grands posters, des vêtements éparpillés de tous les côtés, les guirlandes de lumière accrochées au rideau accompagnées par le poste radio allumé, lançant la musique au volume maximal. Un peu plus tard, l'apparition du campus universitaire, né de fraternité de sororité, avec en supplément le moment bisoutage de la soirée d'intégration. Dans la liste de moments importants, nous trouvons le bal de promotion, se déroulant chaque fin d'année, théâtre du first kiss, mais comme symbole de la fin de cette période de troubles, de changement de mode de vie, la cérémonie de remise des diplômes marquant le début d'une nouvelle ère, ou l'apparition de nouveaux horizons. Un point reste à noter. Il existe dans cette catégorie de films et séries plusieurs légères différences entre la France et les États-Unis. Ce parallèle est quelque peu inévitable de par l'existence de productions françaises comme Clem, Foudre, Chante avec la chanteuse Priscilla ou encore Scam. Dans ce cas de figure, il s'explique de façon assez simple. Aux États-Unis, l'accent est particulièrement placé sur la vie quotidienne de l'adolescent avec ses rebondissements. Une disparition inquiétante, une grossesse inattendue ou même une fusillade. Du côté français, le scénario repose le plus souvent sur des événements fâcheux et bouleversants, des querelles qui gravitent autour de l'adolescent. Le divorce des parents, la puberté ou tout bonnement le passage à l'âge adulte. Aujourd'hui, dans les années 2020, les plateformes de streaming et notamment Netflix s'intègrent à l'héritage du teen drama et du teen movie en étant le foyer de plusieurs de ces séries et films, tout en participant à leur évolution et adaptation avec des scénarios pouvant être différemment codifiés. De nombreuses productions témoignent de cette tendance. On My Block, Sex Education, Outer Banks ou Euphoria, produit par OCS, pour en citer quelques-unes, mais bien d'autres encore.
Merci beaucoup Anissa, ça fait pas mal de séries à regarder sous la couette en janvier. Et maintenant, chronique culturelle. En 2009, la New-Yorkaise Vivian Maier, autrefois inconnue du grand public, devient célèbre grâce à ses photographies. Ce n'est qu'à titre posthume qu'elle est reconnue comme l'une des plus grandes photographes du XXe siècle. Depuis, tout le monde s'arrache ses clichés. Le musée du Luxembourg, situé dans le 5e arrondissement de Paris, lui a consacré une exposition, Zeyneb Anachi.
Eh bien oui, Blanche, en 1956, Vivian Maier s'installe à Chicago. Pour gagner sa vie, elle s'occupe des trois garçons de la famille Gainsbourg. Et cette même année, elle tient pour la première fois un Rolleiflex entre ses mains. Un Rolleiflex, qu'est-ce que c'est ? C'est un appareil photo avec deux objectifs à l'avant, l'un servant à la visée et l'autre à la prise de vue. Et là, c'est le déclic. Elle commence par réaliser de nombreux portraits, souvent d'inconnus dans la rue. Elle s'attache aussi à l'autoportrait. Le miroir comme meilleur outil, on voit son visage se refléter à l'infini dans la glace de sa salle de bain ou encore en mode selfie dans les vitrines des boutiques qui créent un effet flou avec sa silhouette. Elle troque quelque temps son Rolleiflex, avec lequel elle n'a fait que des clichés en noir et blanc, pour un autre modèle argentique, le robot Kreuznach, et travaille alors la photo en couleur. Elle s'intéresse de près au cinéma et réalise même quelques courts-métrages. En fait, le style meilleur, c'est trouver l'esthétisme partout et capturer les instants poétiques sur pellicule. Attachée au quotidien et aux petits riens qui font le beau, ce n'est pas étonnant de voir des clichés de bottines ou des journaux qui traduisent des histoires sociales et parlent d'une époque, celle du New York de la fin des années 50. Si les œuvres de Maier sont aujourd'hui reconnues, c'est parce qu'elle prenait soin de faire de ses photos des objets artistiques. Il faut être attentif pour remarquer les leitmotifs qui se glissent dans son travail. Ces motifs de la répétition sont loin d'être des artifices. Ils sont créés par l'ombre des volets un jour de grand soleil, ou encore par les lampadaires qui s'enchaînent et font prolonger la rue new-yorkaise comme si elle ne s'arrêterait jamais. Enfin, parmi les choses oubliées de la vie, l'enfance fait partie des grands thèmes chers à la photographe. Elle qui s'est occupée de tant d'enfants est parvenue à capter leur atmosphère à travers leurs jouets, leurs mimiques et leurs histoires inventées. Elle voyait l'enfance comme un objet précieux que les adultes ont fini par délaisser. Pour découvrir l'univers Maier dans le Paris, le New York et le Chicago des années 50, début 60, l'exposition est à retrouver jusqu'au 16 janvier 2022.
Merci Zeyneb. Donc plus que deux semaines pour aller voir cette super expo. Tout de suite sur Cours d'honneur, on écoute Don't You Want Me, morceau pop de 1981, signé The Human League, remixé cette année par Purple Disco. Don't you want me? Me.
Don't you want me? Don't you want me? You know I can't believe it when I hear that you won't see me. Don't you want me? Don't you want me? Don't you want me?
D'honneur sur Radio Campus Paris, l'émission des étudiants de la Sorbonne. On passe maintenant à la deuxième interview de cette émission avec Agathe.
Salut, on se retrouve aujourd'hui avec Benjamin Floïc, étudiant, mais surtout directeur général et cofondateur de l'association Copain. Copain, c'est une asso étudiante créée il y a un an qui distribue chaque semaine des produits de première nécessité aux étudiants dans le besoin. Mais comment s'est créé Copain ? Et surtout, comment cette asso s'est-elle développée pour agrandir les distributions et aider ainsi plus d'étudiants? Benjamin accepte de répondre à ces questions et nous en apprend plus sur le fonctionnement d'une asso. Bonne écoute.
En un an, il y a une énorme évolution de l'association. Il y a maintenant plus de 500 bénévoles et 3 distributions par semaine de paniers. Comment l'asso a pu se développer si vite?
Alors, on a créé l'association l'année dernière, on était 6. L'idée, c'était de faire des petites distributions pour nos amis, nos connaissances, dont on savait qu'ils avaient besoin de l'assistance pour se nourrir, pour vivre et pour continuer leurs études. Et, donc, on a créé cette association-là assez rapidement. Et puis, le développement, il a été dû à plusieurs choses. D'abord, nous, notre volonté d'aider un maximum d'étudiants le plus rapidement possible quand on a vu qu'on réussissait bien à faire ce qu'on faisait. Mais il a été aussi énormément dû à une précarité endémique de plus en plus forte et des besoins de plus en plus forts chaque semaine. Enfin, le fait de recevoir des messages toutes les semaines, des mails toutes les semaines de gens qui nous disaient « j'ai besoin d'aide », nous, ça nous a poussé à continuer à augmenter, à trouver des nouveaux partenaires, trouver pour faire plus de distribution.
Comment ça se passe au niveau du recrutement? Comment vous organisez, en tout cas au début et maintenant? Est-ce qu'il y a une différence?
Alors, au début de l'association, du coup, on était 6. L'idée, c'était que chacun gère un petit peu une partie de l'association. Une qui gérait, une fille qui gérait tout ce qui était recrutement, une autre personne qui gérait tout ce qui était distribution, une autre personne qui gérait tout ce qui était collecte. On est resté sur un système plus ou moins similaire. Au début, tout le monde s'inscrivait, payait une cotisation et venait et devenait bénévole et faisait un peu plus ou moins ce qu'il voulait. Maintenant, on a essayé de professionnaliser un petit peu plus la chose, d'avoir 2 statuts d'engagement bénévole, avec un premier statut de gens qui viennent simplement pour filer un coup de main sur une distribution, filer un coup de main sur une collecte, filer un coup de main sur une réception de livraison. Et un deuxième type d'engagement, qui est un engagement dans un pôle. Du coup, on appelle ça les membres actifs. Et donc, on a 15 pôles à copains, avec un pôle distribution qui organise les distributions, un pôle collecte qui organise les collectes, avec des gens qui participent à l'organisation de la vie de l'association.
Combien de temps tu consacres à copains? Est-ce que y a une, encore une fois, est-ce qu'il y a une évolution?
Je pense que maintenant, on y passe tous plus de temps qu'au début, parce que malgré tout, même si c'était la création de l'association, on aidait beaucoup moins de personnes que ce qu'on aide maintenant. Et donc, les membres du bureau, on est 5 actuellement. On y consacre facilement 60-70 heures par semaine, en plus de nos études pour certains. Alors, moi, je suis en contrôle terminal, donc ça va. Mais voilà, c'est un engagement qui est gigantesque, parce que du coup, la particularité de commun, c'est qu'on est tous étudiants et que donc on est tous bénévoles. Il n'y a pas de salariés, pas de service civique, pas de stagiaires. Enfin, pour le moment, voilà, c'est vraiment un engagement bénévole pour tout le monde.
Est-ce qu'il y a eu des gros changements de l'organisation pendant la pandémie? Parce qu'il me semble que c'est à ce moment-là que vous vous êtes sûrement surtout développé.
Bah, on a créé l'association dans un contexte pandémique. Enfin, j'ai jamais connu copain sans les masques. Il y a toujours eu cette adaptation permanente. On a adapté en fonction des confinements. Il y a eu des attestations. On avait des attestations pour les bénévoles, des attestations pour les bénéficiaires qui se déplaçaient. Et c'était ça particulièrement l'adaptation, mais c'était copain, ça a été un petit peu un souffle un peu pour tout le monde, que ce soit pour les bénévoles qui donnaient du temps, qui s'engageaient pour les autres alors que plutôt que de rester chez eux, et pour les bénéficiaires qui avaient pour les étudiants bénéficiaires qui avaient un espace de discussion au moins une fois par semaine qui vous permettait de voir des gens plutôt que seulement en Zoom, quoi.
Est-ce que vous attendiez à un tel développement de l'asso aussi soudain, ou alors à la base, vous vouliez juste que ce soit un petit cercle restreint?
Bah, on a créé l'association en se disant que c'était pour aider 50, 100 personnes, et on a été un peu happé par l'ampleur des besoins, et donc on ne s'y attendait pas à la base, mais on a été un peu obligé de le faire, et ça nous allait très bien. Enfin, on avait conscience des besoins, on avait conscience de la nécessité, donc on l'a fait pas à contre-cœur, quoi.
Et donc pour finir, quelles sont selon toi du coup les différentes étapes pour fonder une asso qui fonctionne donc comme copain?
Il faut avoir une cause qui soit suffisamment juste et bien pensée, bien suffisamment noble entre guillemets pour à la fois qu'il y ait des gens qui s'engagent et pour que ça parle aux gens, que ça parle au cœur des gens qui ont envie de s'engager, qui ont envie de filer un coup de main à cette asso. Et puis bah, il y a aussi énormément de choses matérielles, techniques. Essayer d'avoir des statuts qui soient bien écrits, d'avoir des gens qui connaissent plus ou moins le monde associatif et qui ne se lancent pas en pensant que c'est simple de créer une asso, que c'est simple de s'entourer, d'avoir des gens qui soient motivés et participer. Et puis bah, avoir des gens suffisamment motivés, tout simplement, savoir savoir faire venir du monde autour de cette cause-là, faire venir du monde autour de soi pour, bah pour perpétuer, et pas forcément si la question s'adresse à des gens seuls qui ont envie de créer une association, c'est avant tout de pas laisser reposer les choses uniquement sur soi-même et d'avoir des gens au moins 4, 5, 6 personnes pour être sûr de lancer quelque chose à plusieurs et pas que ça pèse sur le dos d'une seule personne.
Eh bien, je te remercie du coup pour toutes tes réponses, c'était super intéressant.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci Agathe et merci à Clément Floïc, cofondateur de l'association Copain, d'avoir répondu à toutes nos questions. Le rap francophone occupe une place prédominante sur les plateformes de streaming comme Deezer ou Spotify. Des artistes de rap hip-hop comme Jul occupent sur la plateforme de Deezer la première place depuis 2015. Pour comprendre le succès du rap largement développé en France, nous devons remonter aux années 70 aux États-Unis. Esaïe Edo.
Le rap désignant un style musical apparu dans les ghettos aux États-Unis, destiné à véhiculer un message de la poésie en rythme en faisant parfois des rimes et de l'argot. Influencée par d'autres genres musicaux comme le blues, le rock, le reggae et le jazz, elle se développe progressivement dans les années 1980. Clive Crumble alias Herc, le premier rappeur américo-jamaïcain, participe à l'essence du rap. Le rap connaît une audience de plus en plus forte aux États-Unis et s'étend à travers le monde dans les années 1990 comme la France. Un groupe est l'un des pionniers du rap français. Avec le groupe IAM, c'est NTM, composé de Joey Starr, de Cool Chain et de Frank Lawyer, alias DJS, en 1989, venant des milieux banlieusards. Ils critiquent le racisme et les inégalités sociales en France. Ils obtiennent un grand succès en sortant des albums comme Authentique en 1991 ou encore J'appuie sur la gâchette en 1993, obtenant en 1997 le disque d'or. Ils participent même aux émissions de rap comme Rapline en 1990. Malgré la dissolution du groupe incontournable du rap français en 2001, d'autres artistes français masculins comme féminins comme Diaz, Aya Nakamura ou encore Marwa Loud reprennent le flambeau et continuent à étendre la notoriété du rap français jusqu'à aujourd'hui. Le rap s'est largement imposé en France et fait d'elle la deuxième production de rap dans le monde.
Merci Esaïe. Entre la musique, la photo, les séries, on a vraiment une vraie programmation culturelle ce soir et on passe à la peinture. Parlons tragédie, parlons comique. Une œuvre du célèbre peintre aux nombreuses peintures à l'huile, aquarelles et à la série de dessins en fusain, Honoré Daumier, présenté par Yann Dolin.
Vers 1868, Daumier réalise une interprétation du roman Don Quichotte de Miguel Cervantes. C'est une peinture à l'huile sur toile réalisée à Munich. Ce personnage inspirant, Don Quichotte, est un chevalier parti dans le monde pour y remettre de l'ordre. Il espère établir la justice, combattre l'abus, redresser les torts et remplir son devoir en toute chose. Il est véritablement l'idéaliste qui ne sait s'accommoder des inégalités du monde et de ses conditions. Il se lance donc dans une aventure visant à conquérir et à lui faire appliquer ses idéaux chevaleresques. Ironiquement, il est facilement associable à de nombreux candidats aux élections présidentielles. Le Don Quichotte de Daumier est sans cesse interprété comme la création d'un artiste qui fut lui-même un grand marginal et qui voulut représenter sa propre image du monde errant, du chevalier errant, pardon. Un chevalier solitaire se battant pour ses idéologies et dans un paysage désertique, ce tableau serait une représentation tragicomique de Don Quichotte et de sa ridelle. Incarnant la fuite du monde, ce personnage est en symbiose avec le peintre en marge de la société.
Merci Yann. Et on continue toujours dans la littérature, cette fois avec Adélie Fabre-Forlini. Cette année, la littérature américaine a fêté les 130 ans de la disparition d'Herman Melville et les 170 ans de la parution de son chef-d'œuvre Moby Dick. Presque oublié après sa mort en 1891, il fut redécouvert dans les années 1920 et est maintenant considéré comme l'une des plus grandes figures de la littérature américaine.
Exactement, Blanche. Mais de quoi parle Moby Dick ? Dans ce livre, on découvre Ismaël qui prend le large en quête d'aventure. Au XIXe siècle, les navires qui sillonnent les mers, notamment les baleiniers, sont sans doute les plus redoutables. C'est sur l'un d'eux qu'Ismaël s'embarque pour chasser ses léviathans et gagner l'océan. C'est à bord du Pequod qu'il rencontre le capitaine Ahab avec une jambe en moins et qui ne vit que pour la destruction du mal avec un grand M, Moby Dick, qui a emporté sa jambe. Rivé à un unique objet, Ahab s'identifie peu à peu à la baleine, métamorphose qui n'épargne pas son corps. À la place de sa jambe mutilée trône désormais l'os d'un cétacé. Les considérations économiques et maritimes, comme les rêves de voyage d'Ismaël, cèdent le pas devant l'obsession du marin pour l'effroyable animal. Entraîné par la haine obstinée de son capitaine, l'équipage voit son horizon progressivement réduit à la seule ombre blanche de Moby Dick. Le récit se déroule dans les années 1840, où la chasse à la baleine est alors proche de son âge d'or. Cela fait des décennies que les baleiniers hollandais ont déjà exploité les réserves de baleines au large des côtes européennes, mais elles sont encore abondantes près du continent américain. C'est sur la côte nord-est américaine que la pêche à la baleine prend son essor, notamment sur l'île de Nantucket, au large du Cap Cod. Les Nantucket, population autochtone de ce banc de sable jeté en mer, ont une culture traditionnellement liée aux cétacés. Depuis le XVIe siècle, les baleines échouées étaient équarries et la précieuse huile extraite directement sur la plage. Reconnaissant le potentiel économique de cette ressource très prisée, les armateurs décidèrent d'aller s'approvisionner directement en mer. À l'époque, l'huile de baleine n'avait pas d'équivalent sur l'éclairage ou la lubrification des machines. Jusqu'à la première exploitation du pétrole en 1859 en Pennsylvanie, le commerce d'huile de cachalot, qui était de loin supérieur à celle que l'on extrayait des autres cétacés, fut incroyablement rentable. L'intensification de la chasse a contraint les baleiniers à s'aventurer toujours plus loin de la côte est et ainsi dépasser les limites de leur expédition pour remplir leur cale d'huile. D'abord d'une durée de quelques jours, les expéditions ont fini par durer plusieurs mois, voire même plusieurs années, pouvant aller jusqu'à 5 ans. On retrouve dans la chasse à la baleine le goût de la conquête et de l'exploration, de la liberté d'entreprise qui a fait de l'Amérique. La conquête des États-Unis a commencé par celle des océans, et notamment celui du Pacifique, que l'on connaît plutôt sur fond de rumeurs et de légendes que par des cartes maritimes bien détaillées. La conquête de l'Ouest, amorcée au début du XIXe siècle, a été en grande partie financée par le commerce de spermacétie. La présence des baleiniers américains dans toutes les mers du monde a été le premier témoignage de la montée en puissance de l'économie américaine, bien avant qu'elle ne devienne un géant politique. Les baleiniers s'étaient équipés de fours en briques dès les années 1800 et étaient devenus de véritables usines en mer, toute la chaîne de production d'huile se faisant à bord, dépeçage, traitement par cuisson et tonnelage. Les baleiniers transformaient en plein océan leur proie en produits finis, prêts à la vente. La baleine morte était pelée comme une orange, à l'aide d'un crochet planté dans l'animal et relié au mât principal, celui-ci permettant de la faire rouler sur elle-même et de dérouler l'épaisse couche de graisse de 15 cm d'épaisseur qui l'enveloppait. Les couvertures de graisse étaient ensuite brûlées dans les fours du navire pour en extraire l'huile. Le feu était alimenté par la chair grillée de la baleine, ainsi le cétacé brûlait pour un bûcher alimenté par son propre corps. L'activité a ensuite connu ses heures de gloire. Les monarques d'Europe du Nord, notamment en Angleterre et en Islande, financent et équipent de nombreux baleiniers afin de ramener du précieux spermacéti pour la production de bougies, savons et autres cosmétiques, de l'ambre-gris pour la parfumerie ou encore des os de cachalot dans lesquels sont taillés des objets dont raffole l'aristocratie. Cannes, manches et baleines pour ombrelles. Depuis cette époque, le cachalot est considéré comme des poissons royaux.
Waouh, merci beaucoup Adélie. Si on n'a pas tous fait la bonne résolution d'être végétarien au Nouvel An, on a une super recette. Bon, maintenant un bon plan sorti à présent dans Cours d'honneur. Aujourd'hui, Elisa vient nous parler de 360 Bellec, un projet événementiel qu'elle a cofondé, dont la première édition aura lieu le 7 janvier prochain à la Boule Noire à Paris. Elisa.
Salut. Merci pour cette présentation.
Mais de rien.
Du coup, 360 Bellec, c'est un projet événementiel qui vise à promouvoir l'avant-garde musicale, c'est-à-dire qu'on organise des soirées-concerts où on va programmer des artistes émergents qui, selon nous, ont un véritable potentiel et une plus-value à apporter à la scène francophone et qui donc mériteraient plus de visibilité. L'ambition à terme, c'est de proposer plusieurs soirées par an avec toujours l'ouverture, la mixité et la création au cœur du projet. Le concept, c'est de définir un style musical par soirée, qui devient notre ligne directrice avec laquelle on va construire la programmation et la communication qui va en découler. Et le but, c'est donc d'explorer la diversité des scènes actuelles et d'en livrer un regard singulier. Donc la première édition de 360 Bellec, elle aura lieu le 7 janvier 2022, de 20h à minuit à la Boule Noire à Paris. Et on propose cette fois-ci une programmation féminine autour du R&B et de ses différentes hybridations. C'est des artistes qui vont osciller autour du R&B, mais en proposant des mélanges de styles qui sont donc avant-garde par leur proposition artistique.
Et alors, quels sont les artistes de cette édition, Elisa ?
Alors, c'est toujours délicat de décrire un genre musical et de résumer le travail d'un artiste. Ok, quelques lignes, mais je vais essayer de faire au mieux. Donc on a 4 artistes pour cette édition, 47 Miao qui propose un R&B soul rap influence pop rock. Léo qui fait un R&B plutôt chanson, c'est très mystique. Lazuli qui propose un R&B baile funk un peu afro. Et Regina Demina qui fait du R&B kitsch électro.
Et qui se cache derrière l'organisation de 360 Belek.
Alors du coup, c'est un projet qui a vu le jour avec mon cousin Mathias Breteau. Donc on travaille tous les deux depuis le début. C'est un peu venu comme une évidence de monter un projet ensemble. Parce qu'en fait, on a la même passion pour la musique, on a des goûts similaires, une appétence commune pour l'émergence musicale. Et puis on s'entend super bien et le fait de pouvoir monter un projet avec un membre de sa famille, c'est quand même assez exceptionnel. Donc on travaille main dans la main sur tout l'aspect organisationnel, donc de l'administration à la production, en passant par la programmation, la budgétisation, les relations presse, etc. Et à côté, on travaille avec plein d'amis et professionnels de la com qui nous aident en fait. C'est leur métier, donc ils peuvent réaliser tous nos fantasmes et pousser jusqu'à réalisation les ambitions qu'on avait pour ce projet. Donc je veux juste un petit shout-out à Hugo Dossu, Lucas Latil, Emma Panchaud, Marlon Bagnou et Alix de Charenton.
Et qu'est-ce que ça fait d'organiser un tel projet quand on est encore étudiant?
C'est valorisant, c'est très excitant, c'est surtout très très prenant. En fait, je suis hyper fière de ce projet.
Moi, j'aurais surtout une question pour terminer. Donc, le 7 janvier prochain à la Boule Noire, est-ce qu'on pourra danser?
Bien sûr.
Bon, bah, parfait.
Il reste encore des places, donc.
Ah, génial. Faut réserver, on réserve où?
On peut réserver sur Dice et sur tous nos réseaux Facebook, Instagram, 360 Belek.
C'est noté. Merci Elisa, merci Pierre qui nous avait rejoint. Et pour finir cette émission en beauté, on a la création sonore originale signée Nathan, qui nous partage ses pensées souvent incongrues, qui l'assaillent lors de sa toilette. Sous la douche, voyage en Amérique cette semaine.
Sous la douche.
Bah alors, on dit pas bonjour?
Ouais, bonjour, salut. Attends, je réfléchis un truc.
Tu réfléchis? Wow, ça t'arrive pas souvent, vas-y, je te laisse faire alors.
Est-ce que t'es marrant?
Oui, comme toujours. Je l'ai toujours dit en même temps. J'aurais dû faire comédien, mais bon, j'ai fait les ligaments croisés et puis...
C'est possible que je réfléchisse en paix?
Ah bah non, évidemment. Tu croyais pas que j'allais te laisser tranquille aujourd'hui tout de même. Alors, à quoi tu réfléchis comme une psy cette fois?
Si je te le dis, tu vas te foutre de moi.
Même si tu me le dis pas, je le ferai aussi, tu sais. C'est toi qui vois.
Bon, d'accord. Je me demandais comment on en est arrivé à déterminer que des trucs étaient toxiques pour nous. Enfin, genre, tu peux pas le savoir si tu le manges pas.
C'est-à-dire...
Bah, un champignon toxique. On s'est pas juste dit, celui-là il est moche, je décrète que maintenant c'est toxique et personne devra en manger. Il y a bien quelqu'un qui a dû en manger et en mourir au moins une fois pour qu'on sache que c'est toxique. Tu dis rien?
Je suis étonné. Pour une fois, c'est presque intelligent ce que tu dis.
Ah, merci. J'ai pas l'habitude. Bref, imagine en fait, on a vraiment dit ça comme ça, et le fait que ce soit toxique, bah c'est que psychique.
Presque.
Genre en fait, c'est toxique parce que tu crois que c'est toxique.
Bah du coup, il y aurait au moins un Américain débile qui aurait déjà bu de la Javel pour se laver les intestins, il aurait survécu, et puis il nous l'aurait dit, non?
Mais, ils n'ont pas déjà fait ça? D'ailleurs, c'est pas eux qui disaient que le vaccin, c'était un moyen de nous implanter une puce 5G? Peut-être qu'en fait, c'est eux qui ont...
Wow, réfléchis avant de dire la suite de ta phrase, là. Je te rappelle que c'est quand même des Américains.
C'est raciste?
Absolument pas, non. C'est juste que c'est le même peuple qui tire sur des ouragans en espérant les repousser, et qui pense que le lait chocolaté vient de vaches marrons. En fait, au fond, t'es peut-être Américain, hein. Ça expliquerait pourquoi je comprends pas tout ce que tu me baragouines des fois.
Mais oui, mais c'est ça. Je suis américain, et toi, t'es jaloux, c'est tout.
Qu'est-ce que...
Ah, il est jaloux.
Ah bah, celle-là, je l'avais pas vu venir.
Vous avez écouté Sous la douche, un podcast de Nathan pour Radio Sorbonne Université.
Et si cet épisode de Sous la douche vous a plu ou un peu troublé, vous pouvez le retrouver en podcast natif sur la page web de RSU. C'est la fin de cet épisode de Cours d'honneur. Merci de l'avoir suivi. Vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux en passant par la page RSU Radio Sorbonne Université. Merci à Radio Campus Paris de nous avoir accueillis. C'était Blanche Monin à l'animation, Thomas Schnell à la mise en onde. On se retrouve le mois prochain et d'ici là, n'oubliez pas, tout est possible. Salut!
Ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Tipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République, parce qu'on sait jamais. Hein.
Ça va tout changer, parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement, est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit. Ou.
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.